Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. La radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7 heures minuit, alors je suis pas bon.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
6 heures avant minuit, c'est la quotidienne d'info de Syllab, diffusée à 18h du lundi au jeudi sur le 88.4 FM et DAB+. En ce moment, nous sommes en vacances, alors on vous propose de réécouter nos productions de la saison passée. Compile des reportages du mois de janvier.
C'est un événement qui secoue la France depuis une semaine, la grève des médecins. Samedi, près de 20 000 médecins se sont mobilisés dans les rues de Paris. Leur objectif, protester contre l'empilement d'injonctions, d'objectifs administratifs et de dispositifs de contrôle oppressifs au détriment du temps médical et de la qualité des soins, selon le premier syndicat de médecins généralistes français, MG France. En parallèle de cette grève, le CHU de Rennes a dû annoncer le déclenchement de son plan blanc. Au même moment, les patientes et patients en manque de médecins s'entassent aux urgences. Un reportage de Lafken Zepeda. Au CHU de Rennes, les passages d'ambulances s'enchaînent, bouchonnant par moments à l'entrée des urgences. Devant le grand bâtiment, Jeanne profite d'une pause. Face à la situation sous tension du CHU, peu de personnel accepte de prendre la parole. Jeanne est un nom d'emprunt sous couvert d'anonymat.
Je suis secrétaire médicale en imagerie.
Pour Jeanne, la grève des médecins généralistes n'est pas à l'origine d'une surcharge des services hospitaliers.
Ça fait bien un mois ou deux mois, enfin depuis début décembre, où on a beaucoup d'activités, mais il y a toujours beaucoup d'activités de toute façon. Ça fait plusieurs années où c'est compliqué, donc la grève, on ne voit pas trop de différence pour l'instant.
Gwendaël, visiteur, remarque un manque d'équipement au CHU, mais ne semble pas lier cela aux grèves.
Bah, dans le bloc où est mon père, je sais que tous les lits sont pris. Et là, il est en réanimation. Et on attend les résultats, mais rien à voir avec la grève ou quoi que ce soit comme ça.
Dans son communiqué du 6 janvier, le CHU de Rennes ne partage pas ses constats, accusant en partie la grève des médecins. Il décrit une situation de très forte tension affectant le SAMU et le service d'accueil des urgences adultes. Résultat, le déclenchement de son plan blanc.
Le nombre d'appels au centre 15 a fortement augmenté ces derniers jours. Le service d'accueil des urgences enregistre une activité extrêmement importante sous le double effet du pic épidémique, faute d'alternatives toujours possibles en cabinet médical de ville.
Des cabinets fermés et des professionnels à cran, c'est le cas de Marilyn, médecin généraliste à Mordel.
Alors, gréviste dans le cœur, et je serai à la manifestation samedi 10 là, à Paris.
Comme beaucoup, Marilyn suit le premier syndicat de généralistes français, MG France. Budget insuffisant et mépris du dialogue social, nombreuses sont leurs critiques et revendications. Pour elles et eux, la médecine manque d'abord cruellement de personnel au profit d'une politique business de la santé.
On avait une remplaçante qui était aussi interne chez nous, qui était prête à s'installer et à qui on a proposé un poste sur une plateforme de téléconsultation. Et effectivement, pour elle, c'était plus simple et plus lucratif de travailler pour les plateformes que de s'installer en médecine générale. Alors que c'est un métier passionnant et très agréable quand on arrive à l'organiser de façon convenable.
Et la mobilisation ne semble pas prête de s'arrêter. Hier, 2500 médecins libéraux ont annoncé leur exil symbolique vers Bruxelles, un chemin que beaucoup de médecins français empruntent.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Un jeune Rennais s'apprête à traverser 13 pays à vélo, direction Istanbul, départ prévu en avril. Objectif, rejoindre la Turquie en 3 mois. Il traversera l'Europe à bord de son vélo cargo électrique. Raphaël, 29 ans, est atteint d'une tumeur cérébrale, mais la maladie ne l'a jamais empêché d'avancer. Sous chimiothérapie, il a déjà parcouru le chemin de Compostelle, puis le sentier de Shikoku, au Japon. Aujourd'hui, il repart pour plusieurs milliers de kilomètres au profit de la recherche avec l'association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales.
Après, moi, je vais partir très très light. Hein. le sac à dos, prendre trois paires de chaussettes... Je suis membre d'une association qui s'appelle la RTC. Et dans le cadre de cette association, j'organise un tour à vélo de Rennes jusqu'à Istanbul pour lever des fonds pour l'association qui faire de la communication autour des tumeurs cérébrales. Ce projet est né lors du précédent où je voyais beaucoup de vélos. Et je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus libres, ils pouvaient aller plus loin, porter un peu plus de poids, et donc j'ai eu envie d'essayer et d'envisager des projets, le projet vers Istanbul. Alors pourquoi Istanbul ? C'est une ville où je suis déjà allé une fois, j'ai trouvé incroyable. Et donc pour moi c'était un peu significatif de dire je pars de Rennes, c'est globalement la plus grosse diagonale pour arriver en Asie, des amis, même d'être d'autres personnes, c'est ouvert un peu à tout le monde, si quelqu'un veut me suivre un jour, ça c'est hyper ouvert. Enfin, alors déjà en fait mon itinéraire est calibré en fonction des rendez-vous que j'ai dans les hôpitaux. Et donc je vais pas passer par c'est pas la route la plus jolie. Alors moi je finance mon quotidien, mais par contre je suis sponsorisé et accompagné par plusieurs entreprises et du coup c'est elles par exemple qui vont prêter le vélo. Notamment le service communication de Rennes Métropole qui m'a soutenu et donc tout cet argent du coup moi je peux pas y toucher, c'est directement sur le compte de la RTC, c'est défiscalisable et puis après moi c'est des vacances hein, donc.
Un témoignage recueilli par Estelle Vasquez.
6h avant minuit.
Direction Saint-Jacques-de-la-Lande maintenant, à Rennes, à bord d'un avion pas comme les autres. Le Veli Electro, un appareil 100% électrique. Il produit zéro rejet de carbone et ne produit quasiment aucune nuisance sonore. Aujourd'hui, il sert à former les pilotes et à initier le public à l'aviation électrique avec l'école AirSchool, un appareil qui ouvre peut-être la voie à une aviation décarbonée. Romane est montée à bord du Veli Electro.
Centaine Golf Bravo X-Ray, un Velis Electro, deux personnes à bord, en parking Acre.
Le décollage approche, il ne reste plus que le feu vert de la centrale. Dans l'habitacle exigu, Mathieu, le pilote, règle les dernières commandes sur un cockpit à la pointe de la technologie.
En gros, là, je connecte le moteur aux batteries et je vérifie qu'il n'y a pas de message d'alarme. En fait.
Le Velis Electro est un petit avion biplace, le premier certifié 100% électrique. Il vole grâce à deux batteries, ce qui lui permet de ne produire aucune émission de carbone en vol. Autre point positif, une fois dans les airs, l'appareil ne dépasse pas les 60 décibels, soit à peine le bruit d'un aspirateur. Même le décollage est plutôt calme. L'appareil est aujourd'hui utilisé pour des vols d'initiation et pour la formation des pilotes. Fabriqué en Slovénie, le Velis Electro a vu son autonomie doubler depuis sa première version. Pour Nicolas Rousseau, le gérant de l'école de pilotage AirSchool, c'est déjà un pas important vers l'aviation décarbonée.
Comme pour l'automobile, on peut être un peu sceptique. Aujourd'hui, l'avion électrique, il ne remplit pas 100% du cahier des charges d'un pilote. Pour autant, il remplit 50% de sa formation. Et pour le coup, on met cette solution en place parce qu'on y croit. Une partie de la formation en décarboné, c'est toujours à prendre.
La seule limite, pour l'instant, l'autonomie. L'avion peut voler jusqu'à 45 minutes. Pour Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports, l'intérêt est surtout de réfléchir à la manière de remplacer le pétrole dans l'aérien. Pour lui, l'aviation électrique restera limitée dans son potentiel de décarbonation.
Le poids de la batterie va faire que la taille de l'avion ou encore les distances qu'ils pourront parcourir sont assez limitées par rapport à ce qu'on a comme usage commercial aujourd'hui du transport aérien. Donc sur certaines applications très ciblées, comme par exemple sur de l'apprentissage du pilotage d'avion, ça peut être intéressant, ça peut permettre de remplacer le pétrole. Par contre, sur de l'aviation commerciale, on sait qu'au mieux, ça restera qu'un marché vraiment de niche pour certaines petites distances et plutôt pour des avions avec assez peu de passagers.
L'appareil est loué à la société brestoise Green Aerolease, pionnière de l'aviation décarbonée. Au total, l'entreprise a importé 27 avions en Europe, dont une quinzaine en France et deux en Bretagne, un à Brest et un à Rennes.
Un reportage de Romane Hubert.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01. Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Se faire couper les cheveux gratuitement sans quitter la fac. À l'université Rennes 2, deux étudiantes en première année de CAP coiffure proposent des coupes gratuites aux étudiants et étudiants directement sur le campus. Une initiative solidaire pensée comme un échange gagnant-gagnant entre apprentissage en conditions réelles et lutte contre la précarité étudiante. Hier, Romane s'est rendue sur le campus pour suivre cette initiative.
Une petite frange rideau, quoi.
Ouais.
Un peu plus, t'en as déjà une, mais un peu plus courte, quoi.
Ce lundi 19 janvier, dans la salle F15 de l'université Rennes 2, se déroule une action pas comme les autres. En effet, Louane et Manon, étudiantes en première année de CAP coiffure, proposent de coiffer des étudiantes et étudiants gratuitement.
Pouvoir déjà nous entraîner, puisqu'on vient de commencer un CAP coiffure en septembre, donc on est vraiment très débutantes. Et c'est vrai qu'à l'école et en salon, c'est compliqué de pratiquer. Donc du coup, voilà, on a proposé aussi à Rennes 2. Et en fait, ça nous est venu assez naturellement, puisqu'on était des anciennes étudiantes ici. Et on sait le besoin qu'on peut avoir quand on est étudiant, de pouvoir avoir des choses gratuitement. On connaît la galère, la précarité.
Ayant des amis justement qui sont sur une voie un peu professionnalisante, enfin tout ce qui est métier manuel, c'est quand même bien souvent, souvent c'est beaucoup de thématiques et pas beaucoup de pratiques. Et donc quand j'ai vu sur le mail que c'était des étudiantes en CAP justement qui débutaient et qui voulaient justement avoir du monde à coiffer, je me suis dit c'est déjà bien pour elles.
Un cercle vertueux donc, pour beaucoup se faire coiffer n'est pas un acte anodin. Après avoir payé le loyer et les charges, près d'une étudiante sur deux dispose de moins de 100 euros par mois pour vivre, pour manger, se déplacer, se soigner et parfois même pour se faire couper les cheveux.
Souvent les tarifs ont tendance à monter très très vite, donc c'est sûr que c'est un frein, c'est un budget de se dire tiens ce mois-ci je vais chez le coiffeur.
Une action pensée comme une phase de test qui pourrait, à terme, devenir plus régulière.
On est à 3 lundis d'essai et si jamais le projet marche bien, pourquoi pas continuer tous les lundis sur la même plage horaire.
Merci beaucoup.
Deux autres dates sont encore prévues, les lundis 26 janvier et 2 février. Pour les personnes intéressées, un mail vous a été envoyé par le service de la vie étudiante de Rennes 2. Vous pourrez retrouver les coordonnées des deux étudiantes.
6 heures avant minuit.
Un journalisme d'immersion sur l'éducation, est-ce que ça vous intéresse?
Oui.
C'est ce que nous propose le média Les Trois Ours, avec un spectacle d'information inédit sur la mixité à l'école. Nathaël Simon, journaliste et cofondateur des Trois Ours Média, nous en dit un peu plus sur ses représentations au micro de l'AFKEN.
Les Trois Ours, c'est un média, mais c'est un média qui fait de l'information sur scène. Il y en a qui font de l'information à la télévision, il y en a qui font de l'information à la radio. Nous, on fait de l'information sur scène. Ça veut dire qu'on fait monter des journalistes sur scène pour faire des spectacles d'information. Pour le prochain spectacle, on a fait monter une journaliste spécialisée en éducation et on va parler de mixité sociale à l'école, et notamment au collège, et parce qu'elle a fait tout un reportage pendant plus d'un an. Elle a fait un an d'immersion dans un collège à Nantes qui a ouvert l'année dernière et qui était la fusion de 3 anciens collèges nantais. L'idée, c'était de fusionner un collège du centre-ville avec 2 collèges plus périphériques de Nantes pour justement favoriser la mixité sociale. Anna Benjamin, elle est journaliste indépendante aujourd'hui. Elle a travaillé longtemps pour Le Point. Et là, elle travaille régulièrement pour l'émission de France Culture Les Pieds sur Terre. Donc c'est des reportages radio d'une vingtaine de minutes en immersif. Elle travaille également un peu pour Libé et Le Monde. Et là, elle vient aussi de réaliser, avec la revue dessinée, toujours sous le même thème, une enquête sur ce fameux collège de Nantes. De manière générale, la particularité de notre spectacle, c'est que c'est pas une conférence, c'est une journaliste sur scène, mais avec une mise en scène, avec des éclairages, des lumières travaillées, importantes. Et du coup, avec aussi l'idée que on n'est pas là que pour informer, on est aussi là pour passer des émotions quand même, c'est la première chose. Et la spécificité de ce spectacle-là en plus, c'est qu'on a travaillé autour de la bande dessinée, et notamment la question de comment on rendait visible sur scène la bande dessinée. Donc on a 5 écrans sur scène qui permettent de refaire vivre l'idée de bulle, l'idée de projection variée pour qu'effectivement la BD qui a été réalisée sur ce sujet vive, s'incarne dans le spectacle. On a une écriture un peu... nos spectacles sont un peu écrits comme des podcasts, c'est-à-dire que c'est un récit narratif et immersif, un peu comme le font les podcasts aujourd'hui. Okay. Donc là, effectivement, on va avoir un stand d'extraits sonores qui viendront illustrer le spectacle.
Merci Nathalie Simon et Lafken. Si le sujet de la mixité sociale au collège vous intéresse, alors filez réserver vos places. L'événement a lieu à La Paillette le jeudi 22 janvier de 19h à 20h30 et le vendredi 23 janvier pour deux prestations, une à 10h et l'autre à 19h. Et pour les Brestois, il est possible de prendre sa place le jeudi 29 janvier lors du festival Longueur d'onde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.3ours.fr.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Les midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Est-ce que le prix vous importe plus que la provenance ? Hier, les eurodéputés ont décidé d'envoyer le traité du Mercosur devant la Cour de justice de l'Union européenne. Pourtant, la question de la production locale reste dans la bouche des Rennaises et des Rennais. Lafken est allé demander aux consommatrices et consommateurs quel impact le Mercosur pouvait avoir sur leur quotidien.
Oui, je consomme des produits locaux. D'ailleurs, je prends souvent des produits biologiques que l'on dit plus chers, ça reste à voir, ça reste lesquels ?
Pierre, de son nom d'emprunt, est venu chercher son déjeuner à la Criée, place incontournable du marché local rennais. À ses yeux, le Mercosur n'est pas désirable pour l'agriculture locale.
Ben, les agriculteurs français se trouvent pénalisés, effectivement. Si on importe des produits d'Amérique du Sud qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires que chez nous en Europe, à moindre coût et avec une qualité moindre, voilà.
Un constat que Bastien, client d'une épicerie bio, partage, mais pour lui, les consommateurs et consommatrices qui le peuvent doivent aussi prendre leurs responsabilités.
Oui, tout ce qui est bio et plutôt local, ça nous va bien. Ouais. Alors j'ai la chance de pouvoir le faire. Je pense que oui, effectivement, dans nos vies, on peut consacrer un peu plus à l'alimentation. L'enjeu dépasse les simples agriculteurs.
Cécile, je suis vendeuse en épicerie bio indépendante.
Après avoir travaillé comme maraîchère et arboricultrice, Cécile tient désormais une épicerie aux produits bio et locaux dans le centre de Rennes. D'expérience, son avis sur le traité du Mercosur est tranché.
Une grosse concurrence hyper déloyale sur tous les produits agricoles et enfin voilà, une belle destruction de la planète aussi derrière, ouais. Bon, on en parlait déjà pas mal, mais là effectivement là ça commence à être super compliqué. J'ai des amis qui sont éleveurs et franchement ouais, non, c'est un vrai problème quoi en fait. En bio, mais il y a pas de protection en bio, il y a plus de protection, ça fait 5 ans qu'ils ont détricoté les protéines, on a même plus d'aide.
Malgré tout, Cécile reste optimiste quant à la production locale rennaise.
Globalement, sur le territoire brétilien, ça reste quelque chose d'important, mais parce qu'on est un bassin de production. C'est historique chez nous, quoi. Et vraiment, les gens, ils ont cette volonté de consommer local, ouais. C'est-à-dire que l'objectif, c'est toujours de savoir réussir à mettre un nom ou un visage sur des producteurs. Donc, c'est pour ça que nous, par exemple, on fait des marchés de producteurs pour que nos clients puissent voir aussi la tête qu'on nous produit. C'est hyper important, en fait.
Dans ce contexte de tension commerciale, aucune concession automobile que nous avons contactée n'a donné suite à nos échanges. Côté vin et spiritueux, autre secteur qui pourrait être avantagé par le traité, seule une caviste rennaise nous a accueillis. Anonyme, son avis sur le Mercosur n'est pas encore défini.
Oui, je pense, enfin peut-être, sûrement, ça peut permettre de... Ben ouais, de développer le commerce à l'international. Voilà.
Merci Lafken, et si les tensions agricoles ne baissent pas, le Parlement européen espère s'offrir un peu de répit en attendant la réponse de la Cour d'appel européenne de justice.
6h avant minuit.
Crans-Montana, un drame qui n'en finit pas. Hier, des échanges entre le copropriétaire du bar suisse Le Constellation, Jacques Moretti, et l'un de ses employés sont rendus publics. Gaëtan, le barman, filmait la fragilité du plafond. Il teste la tenue des mousses acoustiques à l'aide de queues de billard posées sur des tabourets. Pourtant, la vidéo est claire, les mousses ne tiennent pas, l'une d'elles se décolle. Dans sa réponse, le propriétaire affirme, je cite, « Si elle tombe, il va falloir la laisser ». Gaëtan, grièvement brûlé le soir de l'incendie, a pu sortir récemment de l'hôpital. De nouvelles preuves accablantes contre les propriétaires de l'établissement suisse. Vendredi, la justice a libéré Jacques Moretti, copropriétaire de l'établissement, après le versement d'une caution. Une décision qui provoque l'indignation des familles de victimes dénonçant des mesures jugées trop légères. À Rennes, la municipalité de son côté serre la vis face à ces événements. Les contrôles surprises se multiplient dans les bars. Je suis allée voir ce qui se passait dans les établissements festifs rennais.
Les voix montent, les cigarettes se consument. À quelques mètres du Satori Club, à Rennes, la file s'étire. Mais dans l'air, quelque chose résiste. Malgré l'envie de faire la fête, certains et certaines ont encore en tête le drame du Constellation.
J'ai une connaissance qui a été touchée, qui était dans ce bar et qui est malheureusement ressortie la moitié du visage brûlé.
Ça m'a tellement traumatisée que oui. Je vais regarder un peu où sont les verres de sécurité.
J'y vais pas forcément y prêter attention forcément en rentrant dans la boîte de nuit. Bah oui, juste je leur donne ma confiance, je paye l'entrée.
J'ai prévenu ma mamie que ce soir je sortais et elle m'a tout de suite dit de vérifier vraiment comment l'établissement était fait.
Les feux d'artifice qu'on met sur les bouteilles, c'est un peu artificiel, c'est superflu, il n'y a même pas besoin de ça quoi. C'est tant mieux qu'on les supprime.
Ça me fait pas peur, ça va pas m'arrêter d'aller en boîte de nuit. Je vais quand même continuer à y aller.
Dans plusieurs établissements rennais, dont le Satori Club, l'Espace et le Tremplin, les bougies incandescentes ont été interdites. La mairie de Rennes prend aussi ses dispositions. Cyril Morel, adjoint délégué à la sécurité civile et à la vie nocturne, l'annonce. Bars, boîtes de nuit et restaurants à ambiance feront désormais l'objet de commissions de sécurité.
On avait fait en 2016 un certain nombre de visites d'établissements, notamment ceux qui avaient des sous-sols. Mais comme ce sont des petits établissements qui ne sont pas suivis régulièrement par les commissions de sécurité, il est évident qu'on va, dans les prochaines semaines et les prochains mois, procéder à un certain nombre de visites de bars sur lesquels on aimerait bien vérifier que ça fonctionne à peu près normalement.
Il n'aura pas fallu attendre longtemps. Dès le soir même, des contrôles surprises dans plusieurs bars rennais. Pour Maxime Samson, propriétaire du Petit Vélo, place Saint-Michel, cette visite n'avait rien d'inattendu. Son établissement fait partie de ceux qui ne sont pas pleinement conformes aux normes. En cause, une alarme incendie défaillante et d'autres dispositifs de sécurité insuffisants au sous-sol.
Il y avait des choses qui n'allaient pas, la porte coupe-feu en bas qui était un peu bloquée par des fûts pleins, j'avais été livré donc j'ai pas rangé, mais dans une porte coupe-feu c'est tout le temps fermé. Il y avait dans ma réserve, il y avait un trou dans le plafond, dans le placo et un trou dans le mur, ça on estime que c'est pas coupe-feu. Et surtout aussi, la signalétique de tout ce qui est extincteur, sortie de secours qui n'était pas vraiment claire. Plein de petites choses, voilà, ils ont été hyper pointilleux. Ce qui est tout à fait normal vu le contexte en fait.
Il n'y a pas grand-chose en soi, mais il fallait que ça soit fait. Quoi.
Une liste de manquements entraînant la fermeture de son sous-sol. Maxime Samson a déjà lancé des travaux et demandé plusieurs devis. Il évoque une possible réouverture courant février, sous réserve de validation de la municipalité. À l'inverse du Petit Vélo, le bar Tio Paquito a dû fermer totalement ses portes. L'arrêté municipal pointe plusieurs défaillances, absence d'isolement, dégagement non conforme, manque d'équipement d'alarme et formation insuffisante du personnel à la sécurité incendie. Et hier, trois nouveaux contrôles de bars à Rennes ont entraîné des fermetures, le Tico's, le Sunset Café et le bar La Gasoline.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
0 heures.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Rien ne sert de jeter quand on peut broyer. C'est le slogan de Rennes Métropole pour l'opération Sapin Malin, de retour cette année pour donner une seconde vie aux sapins de Noël. À Rennes et dans la métropole, des enclos se sont installés pour récupérer les sapins naturels après les fêtes. Je suis allée à la rencontre des Rennais et Rennaises pour savoir ce qu'ils et elles en pensaient.
Je retrouve avec un sapin en mi-janvier et je sais pas quoi en faire. Donc il va me falloir une solution pour m'en débarrasser et puis un endroit pour le mettre, quoi, qui est adapté.
Fin janvier, les fêtes sont loin derrière. Mais le sapin, lui, est toujours là. Et comme Igor, beaucoup de Rennais se posent la même question. Où jeter mon sapin ? Pour Annick, la réponse est toute trouvée. Fidèle à l'opération Sapin Malin, elle ne la manque jamais.
Quand je vais au Super U, je me dis « Ah, voilà, ils ont installé pour mettre les sapins. » Ce qui est très très pratique, je trouve que c'est une excellente initiative et chaque année je fais ça.
Même constat pour Santiago. Arrivé récemment à Rennes.
Une fois que les fêtes sont finies, je me suis renseigné pour trouver la meilleure méthode pour déposer mon sapin à un lieu ou endroit plus indiqué pour essayer de donner une deuxième vie.
Cette idée de seconde vie séduit les Rennais et les Rennaises comme Mingui.
Et je trouve ça super de revaloriser justement le vivant s'il peut être utilisé derrière, c'est vraiment chouette. Tant mieux, c'est une belle initiative.
Une opération qui fête bientôt ses 10 ans, comme l'explique Carole Bagot, chargée de l'opération.
Donc c'est une opération qui existe depuis 2015 et qui a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est d'apporter un service de proximité et puis aussi de désengorger les déchetteries pour éviter qu'ils apportent leurs sapins.
Sur ces sites de collecte, les enclos sont vidés 2 fois par semaine. Le prestataire, Agir Environnement, vient récupérer les sapins les broie sur place, puis repart avec le broyat. Mais dans les communes alentours, l'organisation est différente. Chaque commune doit s'organiser par ses propres broyats. Soit le broyage est réalisé sur place, soit un prestataire est sollicité et le broyat est ensuite mis à disposition des habitants. Un système pratique pour certains, comme Claire, qui a déposé le sapin de son entreprise à Vézin-le-Coquet.
Oui, j'ai été récupérer un sac parce que mes parents ont un jardin et du coup ça leur permet de mettre dans les plantes en fait, pour les garder du froid.
Une opération qui connaît un franc succès. L'an dernier, 20 000 sapins ont été collectés sur la métropole, soit 371 mètres cubes de broyat. Et cette année encore, les résultats sont visibles.
Ce qu'on sait, c'est que le niveau des remplissages des enclos sur la ville de Rennes a été très important sur les premières semaines. Donc on peut supposer qu'a priori, il n'y aura pas une diminution, en tout cas, du nombre de sapins.
Comme ici, dans le quartier de Beaulieu, où une vingtaine de sapins attendent leur seconde vie, dont celui d'Igor.
Maintenant, on va le remettre dans l'enclos avec les autres.
Il ne vous reste plus qu'un jour pour déposer votre sapin dans les enclos. Attention toutefois à respecter quelques règles. Un sapin naturel, sans décoration, sans sac et sans neige artificielle.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Un service d'urgence sous haute tension. La semaine dernière, une centaine de soignants du CHU de Rennes se sont mobilisés place de la République. Ils et elles dénoncent des conditions de travail insoutenables et un accueil des patients et patientes dégradé. L'hôpital de Rennes a déclenché un plan blanc, comme une trentaine d'établissements en France. Une mesure jugée insuffisante. Selon les syndicats, certains aides-soignants et aides-soignantes doivent s'occuper de jusqu'à 39 patients et patientes en même temps.
Le choix de la vie, le choix des services publics.
La colère se lit sur les visages et les banderoles. Place de la République, à Rennes, l'atmosphère est tendue. Une centaine de soignants du CHU sont rassemblés. Et parmi eux, Stéphane, infirmier anesthésiste, il dénonce les conditions de prise en charge aux urgences.
Il faut arrêter la politique du chiffre, il faut arrêter la politique des baisses de coûts, il faut arrêter de considérer la santé comme quelque chose qui coûte. Il faut arrêter de maltraiter l'hôpital et les soignants, parce qu'en fait, quand on nous maltraite, nous, c'est l'ensemble de la société qu'on maltraite.
Début janvier, deux patients hospitalisés sont décédés sur des brancards dans les couloirs des urgences. Un scandale largement relayé dans les médias. Pour Caroline, aide-soignante, c'était le moment de se mobiliser et de dénoncer les failles du service public de santé.
Mais c'est un ras-le-bol permanent en fait. Ce ras-le-bol, il est installé depuis des années et on s'est rendu compte avec la grève des médecins libéraux que ce système de santé, finalement, c'est bien sur le public qu'il repose. Donc ça suffit de voir les libéraux se gaver avec l'argent de la sécurité sociale. On redonne cet argent de la sécurité sociale au public parce que nous, quand il y a des crises, on est là.
Et parmi la foule déchaînée, quelques Rennais et Rennaises sont venus en soutien au personnel soignant. Pour Philippe, retraité, ce qui se passe au CHU est inquiétant.
Je suis en soutien à la manifestation parce que c'est quelque chose qui m'inquiète. D'abord, avec l'âge, hein, en tant que retraité, ça concerne la santé et c'est la santé de tout le monde, donc tout le monde est concerné. L'austérité, ça suffit, surtout dans ce domaine-là.
Le service des urgences est dimensionné pour 150 passages par jour. Aujourd'hui, il en accueille en moyenne 250. La principale revendication de la manifestation, l'ouverture de 50 lits d'aval, ces lits qui permettent d'hospitaliser les patients après leur passage aux urgences. Mais pour Lionel Le Pagnol, secrétaire général du syndicat CGT, la liste de revendications est bien plus longue.
Et on demande le renfort dans l'équipe d'urgence de deux infirmières ainsi que de deux aides-soignantes. Et on demande également à ce que les assistants de régulation médicale, donc c'est le centre 15, c'est eux qui prennent les appels, soient renforcés, qu'on nous donne les moyens de soigner dignement.
Les assistants de régulation médicale reçoivent près de 2000 appels par jour. Et malgré une demande de soins toujours plus forte, 700 lits d'hôpital ont fermé en Ille-et-Vilaine ces 10 dernières années.
Un reportage signé Roman Hubert. Selon l'intersyndicale du CHU de Rennes, la crise ne touche pas seulement les urgences. Les services d'hospitalisation sont saturés, les salles de réveil deviennent des zones d'attente et les équipes des pharmacies, du brancardage, des services techniques et hôteliers sont à bout.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Sauvage.
Et 6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs de Doha.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.